Bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter, au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches. Retour sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et dès 13h30, notre invité sera un homme aux convictions fortes et souvent iconoclaste à gauche, ancien président de SOS Racisme, ancien député PS. Il a quitté la politique, mais il est toujours engagé dans le débat public. Que pense-t-il de ce manifeste contre le nouvel antisémitisme qui n'en finit pas de susciter la polémique? Et pourquoi est-il si sévère sur le plan banlieue que vient de présenter Jean-Louis Borloo? Rendez-vous dans quelques minutes avec Malek Bouti.
France Inter. Questions politiques. Ali Badou.
Le duel, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Est-ce que vous aimez les romans l'un et l'autre?
Ah bah oui. Oui. Qui n'aime pas les romans?
Bah écoutez, je ne sais pas. Est-ce que vous aimez celui-là, en tout cas ce roman dont on a un aperçu dans la nouvelle revue française qui sera donc apparaître au mois de mai, Emmanuel Macron qui dit la chose suivante: « Je suis l'émanation du goût français pour le romanesque ». Vous partagez l'analyse?
Non, c'est fabuleux. Je ne suis que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. C'est très beau. L'entretien est très intéressant, mais c'est une façon d'oublier tout le contexte de son élection pour ne voir là-dedans que le fait que le peuple français dans son ensemble l'aurait porté. Je trouve que c'est assez singulier. Enfin, on va parler de l'ensemble des parties de cet entretien.
Enfin, il a quand même été élu au suffrage universel. Et le principe du suffrage universel, c'est que ce ne sont pas tous les Français qui élisent un président de la République.
Ce n'est pas le peuple français.
Ce qui est intéressant, c'est quand même quand on prend un peu l'histoire des élections présidentielles, là où il n'a pas tort, c'est qu'à chaque fois était élu, sauf peut-être François Hollande, celui qui portait une sorte d'aventure napoléonienne, romanesque, qui arrivait à faire de sa propre conquête du pouvoir un roman. C'est-à-dire que Chirac bat Balladur parce que Chirac a un roman à raconter. Mitterrand bat Giscard parce que Mitterrand, c'est le roman de la gauche qui arrive au pouvoir et Giscard semble être la post-histoire. Or, c'est vrai que la campagne d'Emmanuel Macron, le fait de partir à 3 et d'arriver à je sais pas combien de millions, c'est un roman. C'est-à-dire que le Parti Socialiste et la droite n'avaient plus rien à raconter de littéraire et de romanesque, et que ceux qui ont réussi leur campagne électorale, c'était messieurs Mélenchon et Macron, c'est-à-dire ceux qui faisaient vivre une forme de romanesque dans la campagne présidentielle.
Donc c'est un personnage de roman.
C'est tout à fait vrai, et en effet, c'est un personnage de roman, et il joue de cette dimension-là. Simplement, réduire l'élection présidentielle à cela, c'est oublier tout ce qui s'est passé, par exemple, dans le fait que l'ensemble des puissances financières soutenaient Alain Juppé, jusqu'à ce qu'Alain Juppé disparaisse du champ, et on voit immédiatement se reporter le soutien vers Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il n'émane pas que de ce sens du romanesque du peuple français, il émane aussi du besoin de certaines puissances de préserver un système dont il est la pure incarnation.
Pas seulement les puissances financières, c'est-à-dire qu'il émane aussi de la partie la moins romanesque, justement, de la France, qui est la technostructure. C'est-à-dire qu'il est aussi le candidat le parfait de l'ENA, de l'énarchie, de gens qui, à droite comme à gauche, pensaient que finalement, ils pensaient exactement la même chose et qu'il leur fallait un candidat commun. Donc ça, c'est absolument pas romanesque. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans une dynamique de campagne électorale en France, l'aventure romanesque compte énormément.
Natacha.
Mais il y a quelque chose... Oui, il y a cette phrase « Les Français sont malheureux quand la politique se réduit aux techniques, voire devient politicarde ». C'est quand même assez délicieux, en effet, quand on voit la façon qu'il a de gouverner en mettant à la tête de l'ensemble des ministères, des technocrates et l'ensemble de l'inspection des finances, mais c'est autre chose. Mais simplement, moi, ce qui me fascine quand je lis ce genre d'entretien, qui est très intéressant, et on peut en effet lui reconnaître le fait que pour une fois, nous avons un président de la République qui lit et qui lit des romans. Ce que ne faisait par exemple absolument pas ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande, c'en était désespérant. Mais il commence cet entretien, c'est très frappant, par l'évocation de Giono et Colette. Et il explique qu'il a compris, il a senti l'odeur des fleurs par les mots de Giono et Colette avant de les sentir réellement. Ce qui, moi, pour ma part, me semble en effet fascinant dans la littérature de Giono et de Colette et ce qu'on peut aimer. Et j'y vois quelque chose qui reste un mystère pour moi chez cet homme. comment on peut parler ainsi de Giono et Colette, et ensuite produire ce discours permanent sur le monde qui bouge, le monde qui change, c'est-à-dire ces clichés de la communication politique. J'ajoute que celui qui lui a fait...
Raphaël, puis le président de la République. Je vais essayer de vous donner une réponse à votre question.
Raphaël Glucksmann, porte-parole d'Emmanuel Macron.
Justement, la réponse à la question d'Anne Chobolin, c'est exactement la question que je me suis posée en lisant. Et en fait, est-ce réellement un hasard? C'est-à-dire que dans ces choix littéraires, il n'y a pas de littérature exaltée, épique, française, politique.
Giono, le toit, qu'est-ce que vous voulez de plus?
Oui, mais ce qu'il aime dans Giono, c'est d'ailleurs ce que j'aime aussi. C'est-à-dire la description de la nature,
du mouvement, bien sûr. Et Giraudoux, c'est comme l'antithèse de cette épopée-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, la littérature est un rapport sensible à l'humanité, et la politique est une connaissance fine des dossiers et justement technique. Donc moi, le paradoxe pour moi d'Emmanuel Macron, c'est que dans ses longues interviews où il laisse aller s'exprimer sa culture, parce qu'il a une vraie culture, en réalité, c'est comme si on habitait deux mondes complètement distincts. Il y a le monde où il faut savoir parler de littérature, où il faut savoir parler de sensibilité, et ensuite, quand on fait un entretien à la télévision, on a un rapport extrêmement technique, dossier par dossier, à la politique.
C'est bien cela qui pose problème. Hein, c'est que normalement, quand on est sensible à la capacité de Colette à décrire la couleur mouvante entre le bleu et le mauve d'une violette dans le jardin...
On fait pas de politique.
Ou alors on en fait d'une façon qui est radicalement différente et qui ne peut pas oublier cette dimension fragile du monde.
Le pont entre les deux, c'est Hugo. Hugo n'est pas là.
Voilà, il manque Hugo aussi. Ouais. Et le même paradoxe d'ailleurs me frappe quand je vois quelqu'un comme Sylvain Faure qui a produit tous les discours et toute la communication d'Emmanuel Macron pendant la campagne et qui est capable d'écrire un livre intitulé « Saint-Exupéry Paraclète ». Mais quand on comprend réellement ce qu'est Saint-Exupéry, son rapport à la modernité, on ne peut pas produire les discours de communication politique d'Emmanuel Macron. Il y a là un paradoxe absolument total. Ou alors, on est capable de découpler les deux, et ça veut dire qu'on ne vit pas la littérature profondément.
Il y a quelque chose aussi d'assez fort pour Jupiter, c'est de prononcer cette phrase « On est toujours l'instrument de quelque chose qui vous dépasse, il y a donc quelque chose d'au-dessus, qui est au-dessus de la politique. » On a l'impression quasiment de lire Marx. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Il est peut-être marxiste, le président de la République?
Non, je pense absolument pas qu'il soit marxiste. Je pense au contraire qu'il croit dans une forme de destin. C'est une transcendance qui n'a rien à voir avec le matérialisme dialectique, cher Ali Badou. Et on n'est pas mu par des forces sociales, on est mu, dans sa vision, par une forme de transcendance. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et ce avec quoi je suis d'accord, d'ailleurs, il termine en disant ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire est redevenue tragique. Et qu'on est sorti du postmodernisme, du post-historique. Moi, je suis d'accord avec ce constat. Simplement, la question qu'on a envie de poser ensuite, quand on a lu ça, c'est en quoi sa politique prend en compte justement la dimension tragique du moment que nous vivons dans les démocraties libérales européennes. Et c'est là le problème, c'est la conjonction entre les deux, entre un constat littéraire et philosophique que franchement on partage, et ensuite une absence de traduction politique de cela.
Le président de la République était en visite aux États-Unis cette semaine, ça ne vous a pas échappé. Il répondait aux étudiants de l'université de George Washington.
Et si vous réussissez à comprendre pourquoi, pour de bonnes raisons, vous êtes frustré, eh bien vous aurez appris quelque chose. Si vous ne parvenez pas à trouver une bonne explication à cette frustration, n'abandonnez pas. Cherchez à aller plus loin. Et ne croyez pas ceux qui vous diront « ce sont les règles du jeu ». On ne remet pas en cause les règles du jeu, c'est toujours comme ça, on a toujours fait comme ça, il faut suivre les règles. Non, ça, c'est de la connerie.
Ne respectez pas les règles, ça a dû vous plaire, vous deux libres penseurs, Natacha.
Mais là encore, c'est merveilleux. Ne respectez pas les règles du jeu, ne croyez pas ceux qui vous disent « c'est comme ça ». Mais qu'est-ce donc que la politique qui est menée aujourd'hui, sinon celle de la bonne gouvernance? C'est-à-dire cette
espèce... Mais avouez qu'il n'a pas respecté les règles du jeu politique pour accéder à l'Élysée.
Mais on se moque des règles du jeu politique. Ça, encore une fois, ça fait partie de l'écume. Le fond du problème, c'est de savoir si on respecte les règles économiques qui veulent s'imposer au monde politique. Or, il ne fait que ça. Il nous explique par une espèce de ce qu'on appelle l'épistémocratie, c'est-à-dire le gouvernement des sachants. Il y a des gens qui sont rationnels, qui connaissent, qui savent comment bien gouverner, et c'est cela qu'il faut suivre. Il n'y a pas de démocratie, et il n'y a aucune transgression des règles chez lui.
Justement, en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a dans son discours aux étudiants un côté coach de développement personnel quand il dit ça. C'est-à-dire que c'est vous, individuellement, vous ne respecterez pas les règles pour vous épanouir, toi, en tant qu'interlocuteur. Et c'est finalement cohérent avec sa vision du monde. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des individus. Souvenez-vous du discours du Louvre. Quand il a été élu. Il commence ainsi, c'est quand même fantastique, et c'était une première dans l'histoire de France, en disant « Je ne vous vois pas tous, mais je sais que chacun d'entre vous est venu ici à cause ou grâce à une histoire particulière et chacun de vos dessins. »
Un agrégat d'individus.
Voilà, exactement. Donc, il s'adresse à des individus. C'est une philosophie du développement personnel et c'est la marque de notre époque. C'est-à-dire que dans les librairies, les coachs de développement personnel ont remplacé la philosophie politique et la question de la cité.
Bon, alors citez-moi un président, un roi, un empereur de l'histoire de France que vous admirez. Natacha, puisque rien ne vous plaît, vous
mais
êtes non.
Mais chacun peut
ni
être...
Hollande, ni Nicolas Sarkozy,
chacun peut être admirable pour une action. Henri IV est admirable pour avoir mis fin
Henri IV, vous en avez cité un. Raphaël Glucksmann.
Louis XI est admirable pour avoir administré la France en créant les postes et diverses autres choses, les messageries. Enfin voilà, il y a différentes
Henri
actions
IV,
qui
Louis
ont
XI,
été
moi j'ai un... Et vous, plutôt qu'Emmanuel Macron.
J'ai un léger problème avec les institutions de la Ve République et avec le côté monarchique.
Ah, mais je vous permets de remonter jusqu'à Louis XI.
Non mais moi alors là je peux vous en citer plein, mais simplement plus proche de nous. Moi il y a des personnes comme Pierre Mendès-France ou
je parle de président, roi, empereur.
Mais, voilà, parce que vous êtes complètement...
Vous nous faites entrer dans votre cadre, Ali, et nous le refusons.
Vous êtes un fanboy, en fait. Et c'est un peu le problème de la politique en France. C'est-à-dire qu'on regarde comme ça, on est des citoyens, on a fait la Révolution française, et on est en attente comme ça d'une personne vis-à-vis de laquelle on se détermine. Moi, franchement, je ne pense que Macron n'est ni le dieu, ni un diable. C'est-à-dire que je peux tout à fait être d'accord avec lui sur certains points. Il a fait des discours aux États-Unis sur l'Iran, où je suis d'accord avec lui, sur le réchauffement climatique, où je suis d'accord avec lui. Mais simplement,
Donc d'un côté
droit.
Louis XI et Henri IV et de l'autre
non, mais je vous dis Louis XI pour
Apollonie.
Non mais Louis XI pour certaines actions, Henri IV pour certaines actions. Je ne juge pas l'homme et je ne suis pas fanatique d'un homme dans sa totalité.
J'apprécie certaines actions.
Certainement. Je ne dis pas que c'était un brave type. Je dis qu'il a eu certaines actions qui étaient bénéfiques.
Il a unifié le territoire français.
Et c'est ça lire l'histoire, en effet.
Le duel continue.
France Inter. Natacha Polony. Raphaël Glucksmann. Le duel.
Dans la semaine aussi, une histoire de notre temps, la rumeur d'un blessé grave lors de l'évacuation de l'université de Tolbiac à Paris. Une étudiante qui avoue avoir menti. Une rumeur qui persiste, reprise, relayée par les réseaux, malgré les démentis de la préfecture de police et de la PHP. Écoutez Gérard Miller, l'un des cofondateurs du site Le Média.
Il est décisif que les témoins des événements puissent parler avec leur façon de faire, avec leur émotion, avec parfois leurs inexactitudes, qu'on soulignera. Mais ne faisons pas en sorte qu'une chape de plomb retombe sur les témoins des éléments violents comme ceux de Tolbiac. Ne partons pas avec l'idée qu'il ne faut donner la parole qu'à la préfecture parce qu'elle parle avec mesure, avec raison, ou qu'il ne faut donner la parole qu'à des journalistes après un jour, deux jours d'enquête. C'est aussi très important de recueillir le témoignage de ceux qui vivent les événements traumatisants de notre époque, en soulignant à quel point, évidemment, par moment, ils peuvent dire des choses qui se révéleront inexactes. Mais sur le fond, la violence policière, c'est ça que les étudiants ont traduit à leur façon. Et c'est ça qu'il fallait effectivement transmettre largement.
C'était Gérard Miller, mercredi dernier. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire, Raphaël ?
Non, tous les médias peuvent faire des erreurs et relayer des fake news. Mais simplement, ces excuses, à mon avis, qui n'en sont pas, montrent à quel point il y a...
Ah, ce ne sont pas des excuses.
Voilà, à quel point il y a un projet idéologique derrière le média. Et surtout, mon problème, à moi, c'est que les mêmes qui nous expliquaient qu'ils ne pouvaient pas passer de photos de l'AFP en Syrie parce qu'elles n'étaient pas assez vérifiées, alors que l'AFP a très bien expliqué comment elle vérifiait ses sources, ils nous expliquent là qu'on peut balancer absolument tout et n'importe quoi, sans jamais vérifiée. Et ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'en réalité, l'idéologie a complètement pris le pas sur la moindre règle journalistique, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on ne doit pas écouter les témoins, mais simplement on doit recouper les sources.
Oui, la question de la pratique journalistique est essentielle aujourd'hui, où justement tout et n'importe quoi peut être relayé par différents médias. Quand je dis médias, c'est au sens large, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire tous les réseaux possibles à travers des gens qui justement n'accomplissent pas ce qui est le rôle du journaliste, qui est de vérifier les sources et de recouper les témoignages. Un témoignage, s'il est seul, ne vaut pas par lui-même. Et si vous regardez le travail d'un site comme Reporter, qui a été en partie à l'origine de cette fausse nouvelle, c'est celui qui a tout de suite publié un correctif et qui surtout a mené une véritable enquête journalistique en allant vérifier. Et il y a un véritable travail journalistique. En effet, une fausse nouvelle est vite arrivée, surtout quand vous avez plusieurs témoins qui mentent. Mais pour autant, le travail doit continuer ensuite. Qui sont des faux témoins, qui produisent des faux témoignages. Donc ce qu'il faut aussi, c'est comprendre quelle est l'idéologie qui conduit à produire des faux témoignages. Alors visiblement, ce n'est pas seulement de l'idéologie, il y a aussi, pour certains de ces faux témoins, une fragilité psychologique. Mais c'est le rôle du journaliste aussi de vérifier.
Ce qui est extrêmement important, c'est la réaction quand on fait une boulette du style. Et la comparaison entre Reporter et le média est extrêmement éclairante. Il y a...
Et ne pas oublier l'essentiel, à savoir le mouvement mené par des étudiants et en l'occurrence leur contestation.
Oui, et puis à ceci près, les fausses nouvelles, les armes de destruction massive, les médias, tous les médias l'ont reprise en Irak. On n'en a pas entendu qui s'excusait. Donc les fausses nouvelles, elles viennent de partout.
France Inter, 13h33 minutes, le grand face-à-face continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou. Sur France Inter.
Notre invité ce dimanche, une voix singulière et depuis le début de ses engagements, ancien président de SOS Racisme, ancien député PS, c'est parce qu'il y a parfois une vie après la politique. Il est aujourd'hui responsable des relations institutionnelles de la radio Skyrock, toujours passionné par les grandes questions qui traversent le débat public. Bonjour Malek Bouti.
Bonjour.
Et bienvenue, on avait envie de revenir avec vous sur quelques-uns des grands thèmes qui ont parcouru l'actualité cette semaine et qui suscitent des passions, à commencer par ce manifeste contre le nouvel antisémitisme qui n'en finit pas de faire débat, texte dont je rappelle qu'il a été signé par Nicolas Sarkozy, trois anciens premiers ministres, des intellectuels, des artistes. Écoutez l'un des signataires, Pascal Bruckner, c'était lundi dernier au micro de France Inter.
Toute ma jeunesse, j'ai vécu dans l'idée que seule l'extrême droite était antisémite. Et puis, on a compris qu'il y avait aussi un antisémitisme de gauche, par anticapitalisme, par antisionisme. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un antisémitisme musulman, radical, qui, au nom d'une interprétation que l'on peut juger trompeuse du Coran, estime que tuer des juifs, c'est faire un travail en faveur de Dieu. Et nous demandons très simplement à l'islam de France, non pas à l'islam en général, parce que nous n'avons pas ce pouvoir, de se mettre au clair sur ce sujet-là.
Pascal Bruckner, dans la matinale de France Inter, à ce jour, 32 000 personnes ont signé ce texte. Pas vous, Malek Bouti ?
Non, je ne l'ai pas signé parce que je pense que c'est un texte qui est... intéressant et important dans l'interpellation, mais dont la conclusion fait un peu plouf, au sens où je comprends pas pourquoi une société irait réécrire un livre, fut-il sacré ou pas, et pourquoi que sur
vous
la question
du Coran.
Oui, ou que sur la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire par exemple le passage sur les femmes est acceptable, le passage sur l'homosexualité est acceptable, le passage sur la domination et la violence est acceptable. Donc je pense que il y a quand même des principes qui permettent intellectuellement de progresser une société. Le principe de laïcité, c'est pas une règle du jeu, c'est aussi un principe intellectuel de débat. Et je pense que là, il y a eu, à mon avis, la ligne rouge de la laïcité a été dépassée. Parce que, d'un certain point de vue...
Les signataires auraient dépassé cette ligne rouge-là.
Je pense que les signataires, pour l'essentiel, voulaient participer de la dénonciation de l'antisémitisme.
Donc, l'ancien directeur de France Inter, Philippe
Ball. Le texte, en tant que tel... pour moi, n'est pas un scandale. Il est même plutôt positif face au silence qui existait préalablement. Mais sa conclusion, elle amène à ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire dès qu'on ouvre un millimètre de porte pour qu'une polémique puisse enfin enterrer le vrai sujet, c'est reparti. Ça me rappelle juste après la mort de Mireille Knoll, qui avait été assassinée, que en fait, 48 heures après le débat, c'était sur Mélenchon dans une manif, et plus sur l'antisémitisme. À chaque fois, il y a un dérivatif. Et donc, le fait d'être exigeant intellectuellement, parfois, c'est pas simplement pour la beauté de la pensée. C'est pour permettre justement de dépasser des contradictions, d'éclairer et d'avancer. En la matière de l'antisémitisme, je pense que le problème, le Coran ou d'autres textes peuvent avoir des problèmes. Mais le problème, c'est la responsabilité publique et une offensive contre l'antisémitisme, en particulier dans la jeunesse.
Natacha, Raphaël, d'un mot, vous n'avez pas signé le texte ni l'un ni l'autre ?
Il ne m'a pas été proposé.
Raphaël ?
On me l'a pas proposé.
Enfin, c'est facile, c'est sur change.org, ouais, le site.
Ah oui, non, mais sauf que quand il a été publié, personne ne m'a.
Mais vous l'auriez signé ?
J'ai toujours beaucoup de mal avec les textes, les tribunes collectives, même si là, en l'occurrence, je pense que je l'aurais signé dans la mesure où, justement, c'est le cri d'indignation qui est fondamental, même si on peut pinailler sur certains mots.
Raphaël,
moi, je ne l'ai pas signé, mais précisément pour cette question du Coran, je ne pense pas que l'enjeu soit d'appeler à réécrire un texte. L'enjeu, c'est, parce que dans ce cas-là, en Europe, il y a eu pendant extrêmement longtemps, fondé sur des écrits chrétiens, un antisémitisme massif. Il s'est arrêté cet antisémitisme parce qu'on a mis à distance ces textes liés au tabou de l'histoire, à la violence de l'histoire, à l'énormité de ce que pouvait produire l'antisémitisme. Et que donc, l'appel qui doit être fait aux citoyens musulmans et d'ailleurs aux autres, c'est justement d'intégrer cette histoire et de mettre à distance ce qui... dans leur entourage, dans leur environnement, dans leur culture, dans tout, produit la catastrophe du racisme et de l'antisémitisme. Et donc, réécrire un texte, c'est pas notre rôle, c'est pas le rôle d'anciens présidents, d'anciens premiers ministres, de parler comme ça d'un texte, et c'est surtout, à mon avis, pas l'enjeu
d'acteur,
central.
D'acteur, de chanteur, Malek Bouti.
Je pense qu'il faut quand même... Il y a une part qui revient aux musulmans, et à ceux qui se réfèrent à ce texte, à moderniser leur pensée globalement par rapport au monde. Sur l'antisémitisme, en premier lieu, c'est certain. Parce que c'est, d'un certain point de vue, on le voit bien, c'est tabou qui existe au sein de la communauté musulmane largement. Ça permet aussi, chez eux, à l'intégrisme de prospérer. Et on l'a bien vu, puisque l'Arabie Saoudite et le nouveau leader de l'Arabie Saoudite lui-même propose la construction d'une synagogue en Arabie Saoudite symboliquement, parce que on voit bien chez eux qu'il y a une réflexion, qu'ils comprennent que l'intégrisme se fait pas sur toutes les questions, il se fait sur la question de l'antisémitisme, sur la question des femmes. Hein, ce sont les deux mamelles de l'intégrisme et de la dialectique. Mais moi, je parlais de la société française et de nos autorités. Et je trouvais que il y a un moment, ça participe d'une sorte de confusion de la responsabilité. Mais qui décide de quoi et comment les choses se passent? On a l'impression qu'on est dans l'éther. Or, je pense qu'il y a des autorités publiques, il y a par exemple un ministre de l'Éducation nationale qui a plutôt d'ailleurs un discours auquel moi j'adhère globalement sur la restructuration des valeurs. Eh bien, je pense qu'une des manières de remettre de l'ordre dans l'école républicaine, c'est que les valeurs républicaines soient respectées, avant même les questions d'enseignement.
Deux choses. D'abord, sur la question du Coran. En effet, le Coran est censé être incréé, mais... Tout simplement faire en sorte qu'il soit enseigné à n'importe quel jeune musulman, qu'il est peut-être, la croyance veut qu'il soit incréé, mais qu'il y a une historicité et qu'il a fallu 2 siècles pour établir le texte, et que rien que ça permet de mettre à distance, justement, est déjà une chose. On peut ajouter que ce qui pose le plus souvent problème, ce sont surtout les hadiths, la sira, c'est-à-dire toute la tradition des paroles et de la vie du prophète, où là, on trouve énormément de choses qui peuvent être ajoutées de façon totalement apocryphe, et c'est sur ce genre de choses qu'il y a peut-être de la part des imams, notamment des imams de France, un travail à mener pour faire passer, pour essayer de nettoyer un peu tout cela. Et on pourrait apprécier que... Enfin, je vois pas en quoi des intellectuels seraient illégitimes pour le dire. Ça veut pas dire que c'est eux qui se proposent pour réécrire. C'est simplement qu'ils disent... Peut-être qu'il y a une réflexion à mener, même si ce n'est pas à eux de la
faire. Vous rappelez aux imams, là où Malek Bouti parlait des pouvoirs publics.
Attendez, voilà, moi, je pense ce sont deux choses différentes. Et je pense que les imams qui ont publié ce texte dans Le Monde, par exemple 30 imams indignés, évacuent en quelque sorte une partie du problème, en faisant comme si tout à coup ils se réveillaient pour dire « nous allons réagir contre l'antisémitisme ». D'abord, on aurait aimé les entendre. On aurait aimé les entendre plus souvent, par exemple, quand un imam à Marseille, El Hadi Doudi, qui vient d'être expulsé, qui est un imam algérien, expliquait que les juifs sont un peuple de singes et de porcs, etc., qu'il faut
bon,
que
les,
les caricaturistes sont des terroristes. Là, on aimerait les entendre et entendre leur indignation.
Malek Bouti,
je pense que d'abord, on voit bien que je dirais, quand on prend un peu du recul, un des grands problèmes de l'islam, c'est évidemment que c'est une religion qui est je veux dire, qui est structurée autour de la notion de communauté, de territoire. Et que gérer une diaspora, c'est-à-dire des musulmans qui ne vivent pas dans des sociétés musulmanes, c'est ça la vraie question qui est posée. C'est-à-dire que ce débat, par exemple, sur le contenu du Coran, des hadiths ou de toute la littérature religieuse, il y a un problème. C'est que les trois quarts des musulmans français n'ont pas une notion d'arabe, que tout se fait en arabe, que je connais énormément autour de moi de gens qui sont des musulmans pratiquants qui ne comprennent pas ce qu'ils font même à la mosquée, je veux dire au sens du langage. Donc il y a une réflexion qui est posée, une évolution à voir. Là où moi je dirais que j'ai une nuance par rapport à ce texte, c'est que on voit bien que ça rend les choses, on n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on va agir, qu'est-ce qu'on va faire. Or, il y a une urgence, il y a un danger. Il y a des situations, dans certaines villes en France, il y a des situations où on pourrait avoir des pogroms. Je suis désolé de le dire.
Des pogroms ?
Oui, je le pense, ouais. Oui. Je pense que dans la région parisienne, dans une ville comme Sarcelles, on est dans une situation de tension. Il y a déjà eu des attaques contre la communauté juive au moment des événements de Gaza. On est dans une situation où une étincelle, comme dirait l'autre, pourrait mettre le feu à la plaine. On est dans une situation dangereuse. Et donc, la priorité, même si ce débat de fond intellectuel existe, la priorité, c'est une action de l'autorité publique par l'éducation, d'abord parce qu'il faut couper à la racine les jeunes générations de ce phénomène-là, et peut-être aussi une action publique plus forte. Mais je pense que d'ores et déjà, avoir au cœur des écoles ce débat-là, on sait aujourd'hui que dans un certain nombre d'endroits, il ne faut pas le cacher, les profs n'osent pas aborder le sujet, l'éducation nationale n'ose pas aborder le sujet, et ça, c'est un problème politique.
Raphaël ?
Bien sûr, moi je pense que c'est d'abord une question de politique, c'est-à-dire que c'est une question qui concerne la République. Et la République doit impérativement abattre les murs des ghettos culturels. On peut en appeler aux imams pour soutenir l'effort.
Nous sommes d'accord là-dessus, bien sûr.
Mais c'est d'abord une politique laïque qui vise à instaurer, parce qu'au-delà de l'islamisme, le problème, c'est une forme de tolérance, même chez ceux qui ne sont pas fondamentalistes ou pas islamistes, une forme de tolérance pour l'insulte antisémite, pour le petit tag, pour des choses qui sont moins spectaculaires que le crime violent, mais qui rendent la vie des juifs des quartiers populaires insupportable. Et ce qui fait qu'il y a des quartiers entiers qui se vident de leur population juive, et que en gros en France, si vous êtes juif riche, vous ne le sentez pas l'antisémitisme. Par contre, si vous êtes juif pauvre, vous le subissez. Et donc c'est cette lutte là elle passe, à mon avis, de manière essentielle par une politique publique qui vise à abattre les murs des ghettos et qui donc ne fasse pas des imams son référent a priori.
Enfin, c'est une des dimensions de la chose, une petite dimension.
Je pense que sur cette question, on retrouve quelque chose qui a existé sur d'autres sujets dans la société française. Le rôle de l'école républicaine, qu'on a réduit peut-être un peu rapidement à simplement aux notions d'enseignement, au fameux béaba qui revient et qui est important. C'est aussi de lutter contre tout ce qui peut détruire le lien collectif, le lien de la communauté nationale. C'est valable sur les questions de l'antiracisme, c'est valable sur la question, par exemple, de l'homosexualité. C'est-à-dire que, pour utiliser une formule un peu raccourcie, mais d'un certain point de vue, l'école doit corriger ce que les enfants peuvent entendre autour de la table familiale.
Mais bien sûr, mais Malik Boutih,
juste une chose. Et surtout, les enfants peuvent devenir les porte-parole du discours républicain autour de la table familiale.
C'est comme ça que l'école républicaine s'est créée, d'ailleurs. C'est vrai, Malik Boutih, mais il y a peut-être un petit problème là, de compréhension, justement, de la façon dont ça fonctionne à l'école. Par exemple, après les attentats, il y a eu, de la part de Najat Vallaud-Belkacem, sur conseil d'ailleurs, le texte avait été travaillé par Caroline Fourest, il y avait eu la production d'une charte de la laïcité. Or, je pense que c'est totalement inutile. C'est un emplâtre sur une jambe de bois, c'est-à-dire que l'idée qu'on va enseigner une fois plus une espèce de catéchisme républicain à l'école, ça ne marche pas. Comment l'école lutte contre l'obscurantisme ? Comment elle fait en sorte, justement, de recréer cette communauté culturelle ? Parler, savoir, c'est-à-dire la lutte contre le...
Vous n'avez pas l'air d'accord, Malik Boutih ?
Je laisse finir.
La lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, c'est par l'ouverture d'esprit et par la différenciation entre les croyances, les traditions d'un côté et les savoirs et les connaissances de l'autre. Je pense que c'est la seule façon de rétablir ce qui est la communauté nationale dans le partage de connaissances.
Alors, je ne m'oppose pas tout à fait, on peut être un peu subtil dans le débat, mais je ne crois pas à ça, parce que ça renvoie quelque part à un a priori qui nous met dans l'impasse face à l'islamisme. C'est qu'on parle d'obscurantisme, et inconsciemment, on a une société qui pense qu'on a affaire à des barbares idiots. Or, je vous ferai remarquer que les islamistes recrutent dans des couches intellectuelles, mais parfois extrêmement bien développées, qui ont un...
L'obscurantisme, c'était l'objet de l'école républicaine, la lutte contre l'obscurantisme, oui, c'est l'objet des Lumières.
Justement, donc je pense que vous avez des gens qui ont un accès au savoir, qui évoluent, qui ont même des parcours de réussite, mais qui vont adhérer à ces idéologies-là. On le voit dans les milieux universitaires, on le voit, et en particulier chez les islamistes, on voit par exemple qu'ils recrutent beaucoup dans les secteurs scientifiques, etc., etc. Peut-être moins dans les secteurs littéraires, et ce qui montre quand même que l'aspect sensibilité, l'aspect valeur, l'aspect humanité est important. Donc moi, je crois qu'il y a cet équilibre. L'accès au savoir, bien entendu. Plus il y a de lumière, mieux c'est. Mais je pense qu'à un moment...
Qu'est-ce que vous répondez à Raphaël Glucksmann, puisqu'il parlait tout à l'heure d'une question sociale. Juif riche en France, on ne vit pas ce nouvel antisémitisme. Juif pauvre dans des quartiers populaires, on y est confronté et on est en première ligne.
Bon, c'est un constat qui s'impose, que je constate vraiment de fait. On le voit bien aussi dans le mouvement des populations concernées et dans celles qui sont le plus en difficulté. Mais ça renvoie globalement à l'idée que même si on ne revient pas au temps où tout était autour de la lutte des classes, on peut pas nier les dimensions sociales des phénomènes dans une société. Et que l'éducation...
qu'on parle justement du plan banlieue, puisqu'il est supposé répondre à cette question sociale.
Ces sujets dans les zones populaires ne sont pas abordables de la même manière et avec les mêmes outils que dans d'autres endroits où le débat est plus intellectuel et plus apaisé.
Juste un dernier mot sur l'école et ensuite on pourra passer à autre chose parce que c'est pas l'école qui est la seule responsable de la propagation républicaine, mais c'est bien sûr qu'il faut avoir accès au savoir et que le savoir est une antithèse de l'obscurantisme et du dogme, mais c'est pas seulement une tête bien pleine, c'est une tête bien faite. Et donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir en fait à la manière dont on enseigne ce savoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on suscite le débat pour justement cadrer et recadrer.
Alors, si je peux je peux me permettre, au-delà de la question antisémite, regardez les témoignages qui remontent sur l'intrusion de toutes les formes de violence au sein des établissements scolaires dans les banlieues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande masse des élèves a envie d'étudier dans ces classes populaires et elle est empêchée par des minorités violentes autour de différents thèmes. L'antisémitisme, le gangstérisme, le trafic de drogue, la misogynie, le sexisme. Donc, il y a un moment, je veux bien que le débat, évidemment, on a la perspective du savoir. Mais il y a un moment, il y a aussi la règle, les lignes rouges. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire dans une république ?
Alors justement, puisque vous prononciez le mot de république, vous parliez des banlieues, de la question sociale et de la question des territoires. Il y avait donc Jean-Louis Borloo, jeudi dernier, qui remettait son rapport au Premier ministre. Constat alarmant, des mesures choc. Écoutez Jean-Louis Borloo, c'était jeudi dernier, il était l'invité du journal de France 2.
Il faut bien comprendre que quand on a 10 à 15 millions de Français qui ne sont pas dans le moteur économique, c'est une perte pour le pays qui est considérable de richesse. La croissance de demain, c'est partie de la jeunesse de nos quartiers, c'est eux. La France est un très très grand pays. Si elle ne peut pas remettre les bonnes ressources humaines pour que les 10 ou 12 millions, tout compris, je rappelle, d'hommes et territoires ruraux inclus, permettent à chacun d'avoir le minimum qui permet d'être, à l'étendre à l'égalité républicaine, on n'est juste plus la France. Voilà.
Malek Bouti.
Oui, je ne partage pas ce constat. Par exemple, j'ai toujours pensé qu'on avait beaucoup focalisé dans les processus d'intégration des populations étrangères en France sur des dimensions culturelles, alors que je pense que la dynamique économique reste le vecteur qui réunifie l'immigration. Ce qui fait le point commun de tous les immigrés en France et de leurs familles, c'est la surmotivation économique, avec d'ailleurs les frustrations que ça peut créer. La surdélinquance, les trafics de stupéfiants, les trafics en tout genre, sont en partie...
La surmotivation économique, expliquez-nous ce que ça veut dire.
Ça veut dire que ce qui définit un immigré, c'est beaucoup d'éléments culturels, mais c'est surtout la volonté de s'en sortir économiquement. Il n'aura pas d'héritage, il n'aura pas d'acquis, il n'aura pas de famille pour l'héberger. Ils savent qu'au point de départ, il faut tout conquérir. Et on voit bien que dans les milieux scolaires en particulier, ils sont extrêmement motivés. Et moi, ce que je constate, j'ai pas de laboratoire, mais de la réussite économique, il y en a. Mais elle accompagne en même temps une décomposition républicaine et sociale. D'abord parce que ceux qui réussissent bien finissent par s'en aller. Et donc, il y a un cycle où, par exemple, les nouveaux migrants arrivent dans des quartiers où on a à peine essayé de relever la population qui, elle, est partie.
C'est les poches de pauvreté que ça crée, ce mouvement.
Donc, je pense que, imaginez les banlieues, pour utiliser une formule un peu caricaturale, comme des futures start-up qu'il faudrait aider, c'est un raccourci. Je pense que le cœur, c'est, on l'a évoqué, c'est l'ordre républicain. Ça restera difficile d'être pauvre, ça restera difficile d'être dans les classes populaires, même dans le nouveau monde numérique. Ça restera difficile, c'est un combat. Mais je pense que moi, si je vois la différence des banlieues d'avant avec les banlieues d'aujourd'hui, paradoxalement, sont plus riches, mais elles sont plus pauvres dans leur tête. Alors qu'avant, elles étaient plus pauvres matériellement, mais elles étaient plus structurées dans leur tête.
Et le...
Raphaël.
Non, mais parce que un des enjeux essentiels, c'est la manière dont on structure une nation, c'est-à-dire la manière dont on structure une collectivité. Et le problème, c'est que par la, c'est important hein, de faire des plans pour la réussite économique d'un territoire, etc. Mais si il y a rien qui nous relie, ces territoires resteront en marge. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les zones périurbaines picardes, par exemple. C'est comment est-ce qu'on a pu penser à un instant donné en France qu'on pouvait faire une société si des gens qui naissent dans le 7e arrondissement de Paris, des gens qui naissent à Trappes et des gens qui naissent en Picardie ne se croisent à aucun moment de leur existence, même symboliquement, ne participent à aucune aventure collective. Par exemple, on a supprimé le service militaire. On avait sûrement totalement raison de supprimer le service militaire, mais on ne s'est même pas posé la question de le remplacer par quelque chose. C'est-à-dire que c'était tellement acquis qu'on faisait une société multiculturelle.
Maintenant, c'est prévu.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est extrêmement en retard. C'est-à-dire qu'on a laissé se propager une idée, qui est une idée largement fondée sur le libéralisme d'ailleurs, qui n'y a pas besoin de structure collective commune, d'esprit collectif commun, pour faire un peuple. Qu'un peuple, ça peut être un amoncellement d'individus, de communautés, de je, de nous, mais privés.
Mais je pense oui, en partie, mais je crois que maintenant, vous savez, les problématiques sociales et politiques, elles n'ont pas la même valeur au fur et à mesure que le temps passe. Les situations se dégradent et le contexte, la compréhension, la société elle-même a évolué. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu des banlieues, c'est pas sa normalisation dans la société simplement. Quelque part, c'est un enjeu qui renvoie à tous les enjeux de la société française. Sa souveraineté, la particularité ou non républicaine, la place qu'on se donne dans le monde, l'identité nationale. En fait, de la manière dont on va traiter les banlieues, on aura une idée un peu de la manière dont la France...
C'est une question nationale.
Absolument, va évoluer. Et donc, je pense que ça renvoie aussi à la question du traitement des classes populaires. Et ça, moi, je pense que c'est un sujet politique. Après, il y a les réponses qui peuvent être données, mais il y a une grande problématique, c'est qu'on a le sentiment, la littérature d'anticipation, moi, qui est un peu mon dada, en parle beaucoup, mais on a le sentiment que la fameuse société moderne, le nouveau monde dont qu'on évoque, qu'on a du mal à définir, c'est quand même un nouveau monde qui semble pouvoir se passer de toute une partie de l'humanité.
De caste.
Et là, il y a un danger extraordinairement important, c'est que tous les raisonnements sont faits in abstracto d'un point, la violence. Et c'est le retour de la violence en politique et de la radicalité en politique qui est en train de changer la donne.
Natacha.
Je pense aussi que quand on entend Jean-Louis Borloo parler de son plan, on a une espèce d'impression de décalage frappant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur cette question des plans banlieues, on a toujours une guerre de retard. Moi, j'ai l'impression d'entendre le discours qu'on entendait dans les années 90, qui est très sympathique, qui est plein de bonne volonté, qui part d'ailleurs.
Dans les années 90.
Oui, qui part d'ailleurs des.
Vous pensez à quoi? Vous pensez à Bernard Tapie, ministre de la Ville, en 92?
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et on en est, on n'a pas tellement
1992,
bougé. Or, il me semble que la donne a radicalement changé et que, en effet, une des dimensions, c'est cette création de poches de pauvreté. Parce que ceux qui réussissent dans les banlieues ont tendance à les quitter. C'est-à-dire que le territoire ne s'enrichit jamais puisque ceux qui pourraient l'enrichir s'en vont et fuient et qu'on fait revenir des populations toujours plus pauvres. Et la deuxième dimension, c'est la question du multiculturalisme. C'est lié à ce que vous disiez, Raphaël, sur le libéralisme. C'est-à-dire que le discours multiculturaliste libéral dans le sens de la prévalence des individus et de leur histoire personnelle qui ne doit surtout pas se voir imposer un discours collectif sur une culture, sur une identité commune, est en train de rendre impossible la capacité à intégrer différents territoires à l'ensemble de la communauté politique.
Malek Bouti.
Oui, je crois, moi, ma conviction, c'est que on pense beaucoup la République en valeur, bien sûr. Mais la République, c'est une organisation du territoire. C'est l'histoire de France. Et donc, l'enjeu du territoire est un enjeu important. Or, ce qui frappe dans le plan Borloo, comme tous les autres plans, c'est qu'on parle de la banlieue comme d'un à côté. Au moment même où on est en ce moment dans une grande redistribution des cartes, métropole, commune, agglomération, crise écologique et restructuration des villes. Ce sujet est traité comme si tous ces sujets n'existaient pas. Or, je pense que c'est au cœur de la redistribution des cartes. C'est autour du Grand Paris qu'on doit parler de la banlieue. Et pas autour d'un plan banlieue. C'est là-dessus qu'il faut agir. Je pense, ça a été évoqué, je pense que par exemple, l'enjeu de savoir comment des populations peuvent se mélanger, même si elles sont différentes, est un enjeu crucial.
La question du multiculturalisme que soulevait Natacha, pour vous, c'est une réalité, une menace, et il faut y faire face ?
Je pense que le modèle en tant que tel multiculturel, on s'entend collectif. Individuellement, les gens peuvent, ont la liberté dans la République.
Chacun porte l'ensemble de ses histoires.
Mais je pense qu'il a, il est non seulement en échec, mais il est un danger et un poison au cœur de notre société française, parce que c'est très difficile de faire superposer le multiculturalisme aux périphéries dans un imaginaire républicain égalitaire général. Il y a un sentiment que, quelque part, par les faits, on est en train de trancher le destin d'une nation. Mais et ça, c'est extrêmement dangereux.
C'est surtout que le multiculturalisme, c'est finalement, c'est une démission de la politique. C'est-à-dire que ce n'est rien, le multiculturalisme. On vit de facto dans une société multiculturelle. Et le fait qu'on vienne de pays différents, qu'on ait de cultures différentes, de religions différentes, c'est un état de fait. L'enjeu, c'est de passer de cet état de fait multiculturel à une politique cosmopolite, à un cosmopolitisme, c'est-à-dire à l'écriture d'un récit commun, collectif. Et c'est pas nier le multiculturalisme. On est dans une société, de toute façon, on vit tous dans des sociétés multiculturelles. Mais c'est redonner en fait à la politique sa dimension noble, c'est-à-dire républicaine, c'est-à-dire la création d'un commun. Et pour ça, je suis d'accord, c'est que il faut arrêter de faire un plan banlieue et un plan rural et un plan. Il faut faire un plan de réaménagement du territoire français dans son ensemble, et surtout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on redonne à la politique et à la République la capacité d'annuler les logiques naturelles, entre guillemets, de la société, c'est-à-dire les logiques du simple marché. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut rompre, et avec une forme de libéralisme et de diminution du rôle de la politique qui a duré pendant 30 ans, et il me semble que ça ne correspond pas tout à fait aux orientations actuelles.
Malek Bouti.
Deux choses. D'abord, je pense que, au bout du compte, c'est une formule, mais la plus grande souffrance d'une grande partie de la population de banlieue, c'est de ne pas avoir son drapeau, de ne pas se sentir appartenir à la communauté nationale. On a raté énormément d'étapes où on n'a pas compris une chose. Tout en étant pauvre ou issu des classes populaires, on aspire quand même à des belles choses. Il n'y a pas d'un côté une bourgeoisie des classes moyennes qui ont des aspirations, de grandes aspirations, et de l'autre côté des sortes de ventres sur deux pattes qui chercheraient un boulot et de quoi flamber. C'est l'inverse. En vérité, plus vous donnez matériellement, plus la souffrance, plus la blessure est vive. Il y a une volonté de se réapproprier, d'appartenir à une nation. Et tous les débats qui ont eu lieu ces dernières années, qui ont créé une ambiguïté, il faut les trancher. À un moment ou à un autre, tout le monde doit être dans le même. La deuxième chose, c'est aussi une raison d'être optimiste. Je suis très frappé, on peut parler de l'école ou d'autres choses, il y a beaucoup de difficultés, mais il y a une résilience républicaine. Il y a quelque chose de beaucoup plus ancré que la conjoncture et la période politique. Je sais, les débats qui ont lieu en ce moment par rapport à la laïcité, par rapport à plein de choses, et du président Macron, mais sincèrement, c'est anecdotique. Je pense qu'il y a une société qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus matricée par ses valeurs, qu'une période d'un quinquennat, deux quinquennats. Donc, il faut garder quand même confiance, je dirais, dans les perspectives républicaines françaises.
Il reste une poignée de secondes.
Je suis d'accord avec vous, à ceci près que ce que ne prend pas en compte le plan Borloo, c'est que, justement, je disais, ça nous renvoie aux années 90. Dans les années 90, on n'avait pas, à chaque mouvement social, à chaque mouvement étudiant, ou dans des mouvements de profs, des réunions en non-mixité pour parler du racisme d'État et de la France postcoloniale, et une vision racialiste de la société. On voit émerger ça. Ce n'est que le début, hélas.
Bien sûr, c'est vrai, mais j'ai fait un rapport qui s'appelle Génération Radicale, qui traite de ça, mais surtout, arrêtons de voir les minorités. Si on regardait un peu la majorité, je pense qu'on aurait un autre regard de la
France. Tout est lié à la démission de la politique.
Puisque vous travaillez chez Skyrock, vous êtes plutôt Maître Gims ou Orelsan?
C'est un choix difficile, problème. Mais moi, je serais plutôt, j'aime la mélodie de Maître Gims, je reconnais.
Très compliqué, mais merci Malek Bouti d'être venu nous rendre visite. Natacha Raphaël, à dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier, Claire Destacan, Nicolas Slimani, Valentin Hazan. À suivre sur France Inter, Zoé Varier et sa journée particulière, il est 14h.